Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
C'est une histoire qui s'écrit en couleurs avec du rouge et du vert, bien sûr, mais aussi du jaune, du bleu, du blanc, du noir. Ce sont les couleurs du drapeau portugais, celles qui colorent les rues de Lisbonne le 25 avril 1974, lors d'une révolution qui, elle aussi, évoque des couleurs, celles des fleurs, les œillets. Les couleurs sont également celles de la chanson.
Le signal de l'insurrection est donné à Lisbonne le 25 avril à 0h30 par la diffusion d'une chanson interdite, Rondolo Vila Morena.
Rondolo Vila Morena.
Pendant la nuit, des blindés ont pris position dans différents points de la ville. Des communiqués émanant d'un mystérieux mouvement des forces armées, le MFA, alors inconnu, appellent la population au calme.
Dentro de ti a cidade.
Victor Pereira, bonjour.
Bonjour.
Il fallait commencer cette émission avec une chanson.
Tout à fait. Et quelle chanson ?
Pourquoi ?
Parce que cette chanson, Rondolo Vila Morena, d'ailleurs là on vient d'entendre des graviers, qui sont des graviers du Vexin, parce que cette chanson a été enregistrée en 1971 au château d'Hérouville. Zac Afonso, le chanteur de cette chanson, est venu enregistrer un album en France en 71, et cette chanson a été choisie par Otello Salazar Carvalho, qui est donc celui qui organise le coup d'État du 25 avril. Il choisit cette chanson qui doit passer à minuit 20 à la radio, Radio Renascença, qui est la radio de l'Église catholique. Et c'est le signal. Il y avait une autre chanson qui passait un peu plus tôt dans la soirée. Et cette chanson à minuit 20 est le signal que les différents militaires liés au MFA doivent prendre le contrôle de leur caserne ou de leur garnison et que le coup d'État est lancé et qu'il ne faut pas revenir en arrière.
C'est bien organisé cette histoire-là, hein ?
C'est un coup d'État très bien organisé. Il y a eu plusieurs tentatives de coup d'État tout au long des 48 ans de dictature qui ont tous échoué. Et celui-ci réussit de manière assez au-delà des espérances, je pense même.
Vous évoquez le MFA, de quoi s'agit-il ?
Du mouvement des forces armées, qui est un mouvement de capitaines et de commandants qui s'est formé. Donc d'abord, ça s'appelle le mouvement des capitaines en septembre 73 et qui devient le MFA en mars 74. Le mouvement des capitaines est créé pour des raisons corporatistes liées aux carrières des militaires, on y reviendra peut-être, et de très vite, de mouvement corporatiste, ça devient un mouvement politique qui veut la fin de la guerre coloniale et donc la fin de la dictature. Et le MFA est créé donc en mars 74 et très très vite, donc le 25 avril 74, organise un coup d'État.
Avec ce regard que nous devons porter sur les années qui précèdent le coup d'État, bien sûr, pour comprendre comment on en arrive au 25 avril 1974, Victor Pereira, vous êtes chercheur à l'Institut d'Histoire Contemporaine de l'Université Nouvelle de Lisbonne et auteur de « C'est le peuple qui commande, la révolution des œillets 1974-1976 ». C'est le peuple qui commande, le titre est fort. On en est où au Portugal ? En 1968, Salazar à une attaque, il va plus bien à partir de là.
En août 68, il tombe d'une chaise. Début septembre, il a un AVC. Il est opéré. On fait même venir un chirurgien des États-Unis pour essayer de le sauver. Il est sauvé. Il vit encore pendant 2 ans. Mais il doit quitter le pouvoir. Il n'est plus en capacité de gouverner. Et le président de la République, qui est très conservateur, appelle Marcelo Caetano, professeur de droit, qui n'était pas vraiment le dauphin de Salazar, parce que Salazar avait toujours veillé à ne pas choisir de dauphin, de peur que le dauphin veuille prendre sa place. Mais Caetano a plutôt une réputation de libéral, va ouvrir une période d'équivoque en faisant croire qu'il va libéraliser, mais de fait, cette libéralisation tourne très très vite court. Et surtout, Caetano, qui avait des velléités de créer une fédération, il avait proposé de créer une fédération en Afrique, d'être un peu plus souple. Mais dès 68, de toute façon, le président lui impose des limites. Il faut continuer la politique coloniale de Salazar. Et donc, Caetano continue cette guerre qui va causer sa perte.
Ouais, parce que vraiment, l'Afrique, c'est au cœur de toute notre réflexion sur la révolution des œillets, ce qui se passe au Mozambique, en Angola. C'est vraiment ça, c'est cette idée qu'il faut maintenir ces territoires dans le giron portugais coûte que coûte.
Tout à fait. Caetano opère quelques modifications dans le discours de la justification. Ce n'est plus seulement, c'est la providence de l'histoire du Portugal, c'est le rôle historique du Portugal d'avoir des colonies. C'est aussi, il y va en 69, hier sur ce, ici, Maria Benita Bast l'évoquait, ce voyage de 69, de Caetano, où il se rend compte de la présence de dizaines de milliers de colons blancs. Et le discours va être, on ne peut pas abandonner ces personnes qu'on a fait venir ici pour coloniser ces territoires, et donc il faut rester là pour sauver, ou pour les maintenir ici. Et donc, Caetano continue une politique qui est d'envoyer toujours plus d'hommes, plus d'armements, d'africaniser les troupes, et donc de continuer cette guerre sans jamais accepter l'idée d'une négociation.
Salazar meurt en 1970. En fait, le salazarisme continue sous une forme un peu différente. Il faut s'adapter au changement, mais ça n'évolue pas tant que ça. On le voit bien, hein, dans ce début des années 1970, il y a énormément de tensions, malgré tout, parce que, vous l'évoquez, enfin, tous ces conflits à l'autre bout du monde font qu'il y a des doutes sur ce qui se passe. Quand même, il y a des contestations.
Il y a des contestations sociales très importantes, notamment dans les milieux étudiants, dès les années 60, dès les années 70, et les milieux étudiants, c'est notamment là où l'armée va recruter des sous-officiers qui vont ensuite être dans l'armée et qui vont propager des idées anti-impérialistes, anticolonialistes, de gauche. Et on va voir le résultat un peu plus tard, des contestations donc au sein de l'armée même. Certains, et Spinola, encore, vous en avez parlé hier, Spinola qui, à partir de 72, pense qu'il faut négocier en Guinée, parce que la Guinée est un peu le Vietnam portugais. La guerre est extrêmement difficile pour le Portugal, qui y perd de nombreux hommes. La Guinée, avec Amilcar Cabral, qui est un dirigeant d'étoffe mondiale, obtient de l'aide de Cuba, de l'Union soviétique, de la Chine. Ils ont un très bon armement, et au bout d'un moment, 73, ils ont des missiles sol-air, qui font que le Portugal, l'armée portugaise, perd le contrôle des airs et l'avantage qu'il possédait jusqu'alors. Et donc, une partie de l'armée, notamment en Guinée, se dit il faut trouver une solution politique. C'est ce que va proposer Spinola avec son livre en février 1974. Et en aucun cas, une solution militaire est possible. Et on est à la même période que la guerre du Vietnam. Si les États-Unis n'arrivent pas à gagner une guerre au Vietnam, comment le Portugal, le pays le plus pauvre d'Europe occidentale, peut gagner une guerre sur trois fronts en Afrique?
Ah oui, c'est vrai que c'est inimaginable avec Spinola qui a été gouverneur de la Guinée-Bissau, qui se retrouve face à Amilcar Cabral qui, et vous l'avez dit, bénéficie du soutien de Cuba. Et nous sommes dans le contexte de la guerre froide. C'est une histoire mondiale, cette histoire de la révolution des œillets, parce que nous réduisons cela à une journée, le 25 avril 1974, et souvent à un lieu, Lisbonne. Non, c'est une histoire sur un temps plus long et authentiquement mondiale. Ce qui se passe au Portugal est observé dans le monde entier.
Tout à fait. Alors, il sera encore plus observé après le 25 avril, pendant la période révolutionnaire. Mais là, évidemment, ce qui se passe en Guinée, ce qui se passe en Angola et au Mozambique est au cœur des débats sur l'impérialisme, le colonialisme. Et le Portugal apparaît comme un pays archaïque qui continue d'essayer d'imposer un colonialisme complètement daté dans ses colonies sans en avoir les moyens tout à fait. Et le Portugal, notamment en France, ce qui va beaucoup marquer l'opinion publique dans les années 60, c'est la vague d'émigration portugaise, clandestine, irrégulière, où des milliers de Portugais vont vivre dans des bidonvilles, notamment le plus connu Champigny-sur-Marne, où vivent 14 000 personnes. Et donc, notamment dans l'opinion publique française, même celle qui n'est pas la plus politisée, comment ce pays peut-il engager jusqu'à 40% de son budget si une grande partie de sa population, bon, là on parle de quasiment de 10% de la population portugaise qui vient en France entre 1957 et 1974, comment peuvent-ils maintenir cette guerre si coûteuse alors que cette population quitte en prenant parfois des risques physiques pour venir en France et vivre dans des bidonvilles et accepter les emplois les moins prestigieux, les moins bien payés, les plus difficiles physiquement.
Et au mois de mars 1974, il se passe quelque chose au Portugal.
Depuis ce matin, la situation est confuse et les informations contradictoires ne font qu'ajouter à cette confusion. Une chose semble pourtant bien établie, un régiment s'est effectivement mutiné la nuit dernière. Il s'agit du 5e régiment de cavalerie, cantonné à Caldas de Reina, situé à une centaine de kilomètres au nord de Lisbonne. Les mutins ont marché dans la nuit sur la capitale et à la hauteur de l'aéroport, qui est presque dans la ville, ils se sont vus stoppés par les forces loyalistes. Ils ont fait demi-tour et en fin d'après-midi, selon certaines rumeurs, on apprenait que de nombreux officiers de l'armée portugaise auraient été arrêtés. Par ailleurs, il semblerait que la police et la troupe encerclent la caserne de Caldas de Reina et que d'autres officiers dissidents sont cernés à Santarém, toujours au nord de Lisbonne. Je vous rappelle que depuis quelques semaines déjà, le Portugal connaît une division profonde au sein de son armée. La raison en est l'Angola. Alors, le gouvernement portugais a décidé hier, pour mettre fin à ces remous, de limoger Spinola, le chef d'état-major adjoint, et le général Costa Gomes. Mais la réaction a été tout autre, car il semble que ces limogeages soient à l'origine des mutineries. Le gouvernement portugais ne s'y attendait d'ailleurs pas, puisque l'armée n'était plus en état d'alerte depuis hier. Le président du Conseil, M. Caetano, affirme qu'il a la situation bien en main. Et même si l'alerte a été chaude, il faut noter qu'à aucun moment, semble-t-il, la population n'a bougé.
le journal de 20h, le 16 mars 1974. Victor Pereira, mais que se passe-t-il ce 16 mars ?
C'est une première tentative de coup d'État qui est extrêmement mal organisée, qui est faite dans la précipitation la plus complète et qui, comme un long historique de coup d'État militaire ou militaire et civil ou civil, échoue. Et ce qui est intéressant dans cet extrait, bon, d'une part, la cause immédiate est, la cause première, est la démission de Spinola et de Costa Gomes. Pourquoi ? Spinola donc, a été gouverneur en Guinée de 68 à 73. En 73, il quitte la Guinée alors que la situation en Guinée est proche de la débâcle militaire. Et même le PIGC, donc le Parti africain de l'indépendance, pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, déclare unilatéralement l'indépendance du pays, considérant qu'ils ont libéré une grande part de l'ancienne colonie. Il y a une partie de bluff dans tout ça, mais 80 États reconnaissent l'indépendance de la Guinée-Bissau. Et donc, la situation est proche de la déroute en Guinée. Donc, Spinola, qui s'est construit la figure d'un grand militaire avec ce monocle qui ne lui sert strictement à rien, si ce n'est à imposer une image, qui fait venir la presse internationale pour montrer à quel point il est courageux. Il va parfois, en prenant des risques, au fin fond de la jungle, là où il y a des combats. Et donc, il se crée une image, il ne veut pas être lié à une déroute. Donc, il démissionne, il rentre en métropole et il pose un problème à Caetano. Il faut lui trouver un poste à la hauteur de sa réputation de grand militaire. Donc, on lui crée un poste rien que pour lui, vice-chef de l'état-major général des forces armées. Et il est nommé, il rentre en fonction en janvier, et très rapidement, il publie un ouvrage, Le Portugal et son avenir. Et dans cet ouvrage, d'une part, avant la publication de cet ouvrage, il faut qu'il obtienne l'autorisation de son supérieur hiérarchique, qui est Francisco da Costa Gomes, chef d'état-major des forces armées, qui a un cas assez intéressant aussi. Il a fait sa carrière militaire au sein notamment de l'OTAN, pour le Portugal. Le Portugal est membre de l'OTAN depuis 1949. Il est même secrétaire d'État des forces armées d'armée de terre en 1958. Il participe à un putsch contre Salazar en 61 qui échoue. Salazar ne le renvoie pas. Il reste au sein de l'armée et il gravit les échelons de l'armée au Mozambique puis en Angola. Il devient un des grands théoriciens de la guerre contre-subversive et donc il devient chef d'état-major des armées, des forces armées au début des 70, donc il est au sommet de la hiérarchie. Et donc, il autorise la publication de cet ouvrage. Il dit que c'est vraiment une contribution très importante pour essayer de régler le problème colonial. Et que propose Spinola ? Spinola dit, et c'est révolutionnaire, que la solution pour les guerres coloniales n'est pas militaire. On ne va pas gagner ces guerres. C'est impossible. Il faut trouver une solution politique. Il faut donc négocier. Négocier quoi ? Non pas l'indépendance, c'est pas du tout ce qu'il propose, pas l'autodétermination, c'est pas ce qu'il propose, de créer une sorte de communauté, de Commonwealth, où lui, il donne un nom lié à l'histoire du Portugal, une communauté lusiade, où les anciennes colonies, qu'on appelle provinces d'outre-mer, dans le lifting qui a été opéré, auraient plus d'autonomie, auraient même le titre d'État, qu'elles avaient déjà pour l'Angola et le Mozambique, mais seraient rattachées à la métropole. Grosso modo, c'est reprendre un peu des idées de De Gaulle en 58, qui ont échoué, mais néanmoins de les reprendre et de trouver une solution néocoloniale. Ils proposent cela, et ça a l'effet d'une bombe. 50 000 exemplaires se vendent très rapidement. La presse en parle un peu, mais elle est prise par la censure. Mais surtout, ça pose un énorme problème à Caetano. Parce que Caetano, il était pris en étau entre, d'une part, l'opposition, qui, elle, était persécutée, poursuivie par la police politique, mais par une aile gauche du régime qui veut une transition, notamment les jeunes technocrates, une transition vers l'économie de marché, vers la CE, vers peut-être une certaine démocratisation du régime. Ça, c'est son aile gauche, des jeunes technocrates, mais qui, au fur et à mesure, se rendent compte que Caetano n'est pas démocrate du tout et donc vont démissionner. Et une aile à l'extrême droite, soutenue par le président de la République, la vieille garde, Salazariste, qui voit toujours Caetano comme un potentiel traître, comme quelqu'un qui va peut-être négocier avec les mouvements de libération, avec quelqu'un qui va peut-être lâcher les colonies. Donc il est pris en tenaille, et cet ouvrage lui pose problème, parce que le président et l'extrême droite pensent que ce livre est en fait publié en accord entre Spinola et Caetano et que c'est un moyen de préparer une sortie de la guerre. Et donc, Caetano doit faire quelque chose. Et donc, ce qu'il va faire, il va convoquer une réunion de tous les généraux portugais. On va appeler cette réunion la brigade des rhumatismes ou du rhumatisme. Donc, les vieux généraux âgés qui ont du rhumatisme. Et Spinola et Costa Gomes sont évidemment invités, doivent s'y rendre et ils refusent.
Ah oui, c'est un geste fort. Hein.
C'est un geste très fort et donc ils sont démis de leurs fonctions. Et donc ce coup d'État du 16 mars, c'est à la suite de la démission de Spinola et Costa Gomes qu'ils sont démis de leurs fonctions et quelques officiers, quelques soldats de Caldas da Rainha, qui est une des garnisons autour de Lisbonne, sortent pour prendre Lisbonne et ça échoue complètement.
Et on l'entend dans l'archive qu'on a écouté là sur le 16 mars 1974, il y a l'évocation du fait que la population n'a pas bougé. Alors là, on a un élément important pour essayer de comprendre comment on en arrive à la révolution des œillets. Le 16 mars, la population ne bouge pas.
Ça, c'est un élément extrêmement important qui permet de saisir la singularité inespérée du 25 avril. C'est-à-dire que Othello, quand il prépare ce coup d'État, après cet échec du 16 mars, il est un peu impliqué, et notamment dans le reportage, il parle de l'aéroport de Lisbonne. Et ils disent qu'il est dans la ville, alors il est encore plus dans la ville de nos jours, parce que la ville a grandi. Et il, à côté de l'aéroport, il y a des pompes essence, et il attend l'arrivée de cette colonne militaire à côté des pompes essence en faisant semblant de prendre un café. Et il voit les troupes loyalistes, les troupes pro-gouvernementales arriver. Donc il sait qui arrive, qui vient aider le gouvernement. Et donc, il peut apprendre des erreurs de ce premier coup d'État complètement loupé. Et surtout, tout le plan concocté par Othello n'implique aucun civil. Il n'y a que des militaires qui sont impliqués, aucun civil. Et surtout, on ne pense pas du tout que la population civile va participer. Et d'ailleurs, à 4h30 du matin, dès que le MFA lance ses premiers communiqués à la radio, le MFA appelle la population à rester chez elle pour éviter un bain de sang. Mais surtout, la plupart des officiers, dont Othello, pensent que la population ne va pas bouger, parce qu'elle n'a pas bougé le 16 mars. Elle n'a pas bougé quand Salazar a été tombé malade. Et pendant un moment, il y a une sorte de flottement à la tête de l'État qui aurait pu être saisi par la population. Donc, on pense que la population va rester tranquillement chez elle, qu'après 48 ans d'obéissance, on lui dit « restez chez vous » et que les gens vont rester chez eux. Et ce ne sera pas du tout le cas.
Ce ne sera pas du tout le cas avec, dans le cas du 25 mars 1974, où nous l'avait dit Victor Pereira, il y avait une très bonne programmation musicale.
Prendo la Villa Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena. Dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, grandola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, grandola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, grandola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grandola tua vontade. Grandola tua vontade. Jurei te por companheira.
Grandola, Villa Morena, Zeca Alfonso, dans le cours de l'histoire sur France Culture. Le cours de l'histoire, une émission réalisée par Taïsia Froidure. Avec à la technique aujourd'hui Sébastien Royer, le cours de l'histoire qui s'intéresse à la révolution des œillets. Dites-nous, Victor Pereira, pourquoi le 25 avril 1974? On l'a dit, un coup d'État manqué le 16 mars de la même année. Ce sont les mêmes personnes qui font le coup d'État d'avril?
Certaines. Ceux qui organisent très dans la précipitation ce coup d'État du 16 mars sont des spinolistes, ceux qui sont proches de Spinola. Et qui ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux du MFA. Le MFA, ce sont des jeunes capitaines, des jeunes commandants. Beaucoup ont combattu en Guinée avec Othello et avec Spinola. Othello est aussi en Guinée. Mais beaucoup sont critiques de Spinola. C'est une figure du régime, il a fait la guerre d'Espagne du côté des franquistes, il a été dans la Seconde Guerre mondiale du côté des nazis. C'est pas une figure de démocrate. Et même entre eux, il appelle le vieux. Ils s'en méfient beaucoup. Et donc, il y a certains qui participent à ce coup du 16 mars, dont Othello. Et pourquoi le 25 avril? Parce que tout de suite après l'échec du 16 mars, le MFA se dit « on a une opportunité ». Le régime va penser... Le régime savait depuis longtemps qu'il y avait une contestation au sein des capitaines. Ce n'est pas du tout secret. Notamment les capitaines, peu après un décret, loi, qui met le feu aux poudres sur les carrières militaires, en juillet 1973, vont envoyer des protestations, des pétitions, vont menacer de démissionner. Donc Caetano est au courant, la hiérarchie militaire est au courant que la contestation est présente. Même l'ambassadeur de France au Portugal est au courant. C'est pas quelque chose de complètement secret. Et donc ce MFA va se dire, le régime doit penser qu'on est tous emprisonnés ou que les chefs ont été emprisonnés à la suite du 16 mars. Donc il va peut-être y avoir moins de vigilance sur nos actions et donc il faut organiser un coup d'État. Et Othello, quand il va le préparer, va choisir une date. Il sait notamment que avant le 1er mai, la police politique va être très occupée. Pourquoi? Parce que le 1er mai est le jour des travailleurs, qui est évidemment, dans le Portugal salazariste, interdit. Mais le parti communiste ou les partis d'extrême-gauche, maoïste notamment, essayaient toujours d'organiser des manifestations. Et donc, de manière préventive, la police politique arrêtait différents opposants ou différentes personnalités, ou différents militants, avant le 1er mai. Donc, Othello se rend compte qu'avant le 1er mai, quelques jours avant le 1er mai, la police politique va être concentrée sur cet événement, et donc il y aura peut-être un peu plus de marge de manœuvre. Et donc, à partir de la mi-mars, Othello prépare ce coup d'État. Son action, c'est bon, d'une part de savoir quelles sont les forces sur lesquelles il peut compter. Où est-ce qu'il y a des officiers, des capitaines ou des commandants du MFA un peu partout dans le pays, dans quelle caserne, dans quelle garnison. Et ensuite, il va essayer de comprendre qui sont les forces qui seront ennemies, la police politique, la gendarmerie, quelques garnisons à Lisbonne qui sont proches du régime. Et ça, il a vu ça le 16 mars. Il a vu qui est venu, qui a accouru à l'aéroport pour arrêter cette colonne militaire. Et d'autre part, il va obtenir la bienveillance à la fois de la force aérienne, qui est plutôt liée à l'extrême droite, et de la marine, qui, elle, est plutôt liée à gauche. Il va obtenir deux qui ne vont pas intervenir. Et donc, Othello, rapidement, va obtenir des plans, va obtenir le nom des commandants des différentes garnisons, leurs armes, et donc... De façon très artisanale, mais en un peu moins d'un mois, il va créer de toutes pièces cette opération virage historique pour mettre fin au régime.
MFA, le mouvement des forces armées, avec quel objectif? C'est quoi l'idée, le plan idéal de ce coup d'État? C'est un coup d'État.
Alors, le plan idéal, ces jeunes officiers, et notamment un de leurs principaux leaders, Vital Hout, vont avoir très très vite l'idée qui va faire un coup d'État. Certes, il faut prendre le pouvoir, mais il faut avoir un programme politique. Et notamment parce qu'ils craignent Spinola. Ils savent que Spinola est prêt et qu'il tente différentes choses, qu'il a pris différents contacts. Et donc, une chose que va imposer Vital Hout et qui très très vite va être important le 25 avril même, c'est qu'il faut qu'on ait un programme. Et ce programme, alors ce sont des militaires, c'est pas toujours des grands intellectuels, et ils vont demander à un jeune, il est déjà un peu moins jeune à cette époque-là, commandant, qui s'appelle Melwin Tunç, qui est un peu l'intellectuel de gauche au sein de l'armée. Et c'est un dissident, il a eu des problèmes avec la police politique, il a essayé de se présenter aux élections 69 pour l'opposition, et c'est lui qui va écrire un programme politique en mars 74. Et dans ce programme, il y a ce qu'on appelle ensuite les 3D. Démocratiser, donc on promet des élections libres, on promet le démantèlement de la dictature, il ne restera rien de la dictature, et notamment sa police politique, c'est leur objectif. Décoloniser, il est temps de donner aux peuples colonisés leur indépendance et de cesser cette guerre, et ensuite développer. Et développer avec quelques phrases à connotation de gauche qui vont tout de suite effrayer Spinola. Spinola va lire le programme, on va lui soumettre, il va notamment retirer les phrases les plus à gauche, notamment le terme fasciste, il va le barrer, etc. etc. Mais on ne va pas lui demander, on va juste lui dire, voilà, on a ça, on ne lui demande pas son autorisation, on lui présente, on lui dit s'il veut opérer des changements. Mais pour le MFA, celui qui doit prendre le pouvoir si le coup d'État réussit, c'est en aucun cas Spinola, c'est Costa Gomes. C'est lui qui devrait être le chef de ce coup d'État.
Des militaires qui prennent le pouvoir avec un programme politique très bien. Et quelle place laisser à la population dans cette histoire-là? Ben, c'est très simple, tout le monde reste à la maison.
Ici, le poste de commandement du mouvement des forces armées. Les forces armées portugaises demandent à tous les habitants de la ville de Lisbonne de bien vouloir rentrer chez eux et de garder leur calme en toutes circonstances. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, en cette heure grave, pour qu'aucun incident malheureux ne se produise. Aussi, nous demandons à tous les corps d'armée qui ne se sont pas encore ralliés à notre mouvement d'éviter toute confrontation avec les forces armées. Si une telle confrontation avait lieu, les corps d'armée hostiles à notre mouvement porteraient l'entière responsabilité des dommages causés au peuple portugais. Nous demandons au corps médical dans son ensemble...
Vous disiez donc que nous pouvions être tranquilles. Les militaires sont sous contrôle.
Tout est calme et la paix règne dans notre pays.
Une action imprévue. Mais ils n'ont pas la moindre chance, monsieur le ministre.
Ils n'ont pas la moindre chance.
Ils déploient des troupes partout!
Certes, monsieur le ministre, mais ils ont peu de matériel. Et ils sont peu nombreux.
Un extrait du film Capitaine d'Avril de Maria de Medeiros, très beau film, hein, en 2000 sur cette révolution des œillets, avec ici l'étonnement de la part du pouvoir. Victor Pereira, ça a été le cas. Étonnement, le 25 avril.
Étonnement. Bon, d'un côté, comme je vous l'ai dit, le pouvoir savait que depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, il y avait une contestation au sein des capitaines, mais il avait essayé de régler le problème. Notamment, Caetano fait augmenter de façon exponentielle les soldes des capitaines, spécifiquement des capitaines. Il essaye de les acheter. Et même certains au sein du mouvement des capitaines disent « on ne va pas se faire acheter ». Ce n'est pas ça le problème. C'est plus ça le problème. C'est la fin de la guerre et la démocratie. Mais d'un autre côté, ils ne sont pas au courant de cette préparation d'un coup d'État. A priori, Othello réussit à prendre des contacts avec différentes personnes, différentes personnalités, surtout des militaires, et le régime ne semble pas être au courant. Et quand le 24 au soir, Othello se met en place dans le poste de commandement à Ponting, en banlieue de Lisbonne, il a notamment réussi à faire qu'il puisse écouter les échanges téléphoniques des ministres. Et notamment, à 3h du matin, deux ministres militaires parlent et ils se disent, c'est un peu ce qu'on retrouve ici, mais ça c'est après, tout va bien, ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous coucher tranquillement, la situation est sous contrôle. Et quelques heures plus tard, bah, on se rend compte que la situation n'est pas du tout sous contrôle et qu'à 4h30 du matin, le MFA a réussi à prendre les radios, la télévision, commence à prendre le contrôle de différents points stratégiques. Et c'est là notamment que le directeur de la police politique appelle Marcelo Caetano, donc le dictateur, l'appelle au petit matin pour lui dire un coup d'État est dans la rue. Normalement, il aurait dû se rendre à Monsanto, qui est une base militaire au milieu d'une forêt près de Lisbonne, qui est là où il aurait dû aller, mais le directeur de la police politique se dit n'y allez pas parce que peut-être que les insurgés savent que c'est votre objectif. Donc, allez au siège de la gendarmerie, qui est en plein cœur de Lisbonne. Ce choix va s'avérer funeste pour Caetano. Allez-y parce que la gendarmerie est loyale. Et donc, au petit matin, on amène Caetano au siège de la gendarmerie.
Et on l'a entendu, il y a cette annonce à la population, restez chez vous.
Tout à fait. Avec cette idée que, d'une part, que les militaires étaient quasiment convaincus que, comme lors du 16 mars, la population n'allait pas intervenir. Et d'autre part, que souvent on dit que c'est une révolution pacifique, qu'il n'y a pas eu de mort. Bon, il y en a eu 5, heureusement il y en a eu peu. Mais quand les troupes sortent des différentes casernes, ils ont des balles dans leur fusil. Et ils s'attendent à une résistance plus forte des forces pro-gouvernementales. Othello a essayé de tout faire pour minimiser cette capacité de résistance, mais elle existe. Et donc, on appelle la population civile à rester chez elle pour éviter un bain de sang, des gens tués avec des pare-balles. Et on appelle les médecins à se rendre dans les hôpitaux en cas de bain de sang. Et donc, s'il faut soigner des gens blessés, des militaires blessés.
Oui, parce que là, on est sur l'incertitude, bien sûr, Victor Pereira. Mais c'est important de le rappeler. Nous savons aujourd'hui comment s'est déroulée cette révolution des œillets. Mais au matin du 25 avril 1974, tout est possible. On ne sait pas ce qui peut se passer. Et l'idée même de révolution, de coup d'État menée par l'armée, ça évoque tout de suite la possibilité, l'éventualité d'un carnage.
Tout à fait. Et beaucoup de Portugais le disent quand ils ont entendu la première fois les communiqués du MFA. Le MFA ne dit pas tout de suite la couleur politique. C'est que dans la matinée où on dit très clairement que c'est pour mettre fin au régime et pour installer une démocratie, mais on est quelques mois seulement après le Chili.
Et donc, et Pinochet qui prend le pouvoir
Pinochet
au Chili.
Prend le pouvoir. Et parmi les nombreuses rumeurs qui bruissaient au Portugal, il y avait cette rumeur insistante que l'extrême droite militaire voulait prendre le pouvoir pour écarter Caetano, considéré comme faible, comme prêt à toutes les concessions. Et donc, beaucoup, quand ils se réveillent et quand ils entendent ces communiqués d'un MFA, pensent plus à un coup d'extrême droite qu'à un coup de jeunes officiers qui veulent libérer la population et mettre en place une démocratie.
Et c'est pour ça qu'on a toujours besoin d'historiens, c'est pour comprendre ce qui s'est passé, parce que sur le moment même, c'est difficile de saisir les événements qui se déroulent sous nos yeux.
Lisbonne était calme. Ce matin, la circulation était réduite. Beaucoup de boutiques, de magasins, de banques étaient restées fermées. Les rebelles qui s'étaient emparés de la radio de Lisbonne avaient demandé à la population de rester chez elle. Cette fois-ci, la rébellion semble avoir les choses bien en main. Le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Guerre et celui de l'Armée ont été arrêtés. Dans un communiqué, les rebelles ont annoncé la formation d'un gouvernement provisoire qui restera en place jusqu'à ce que se tiennent des élections libres. Les libertés démocratiques vont être rétablies. Une longue page de l'histoire du Portugal est donc ainsi tournée. Le premier changement était intervenu à la mort de Salazar, qui avait tenu ce petit pays de 9 millions d'habitants dans sa poigne de fer pendant 30 ans. À force d'autorité, d'intransigeance, il avait su conserver une façade calme à un pays qui consacrait déjà depuis de nombreuses années la moitié de son budget à entretenir des guerres coloniales outre-mer, au Mozambique, en Angola et en Guinée-Bissau principalement.
Le 25 avril 1974, des actualités qui utilisent le mot « rebelle », c'est toujours intéressant de voir le vocabulaire qui est utilisé. Bah oui, il y a cette idée de rebelle et surtout d'arrestation. Donc c'est ça, c'est arrestation des dirigeants liés au pouvoir en place.
Bon, tout d'abord, le 25 avril, plusieurs colonnes se déplacent à travers le pays, liées au MFA, et une des principales colonnes quitte Saint-Alain, qui est un peu au nord de Lisbonne, où, au milieu de la nuit, et ça on le retrouve dans le Capitaine d'Avril, qu'on a déjà évoqué, il s'agit pour les jeunes officiers du MFA, ou liés au MFA, de prendre le contrôle de leur garnison, de leur régiment. Et ça, c'est pas gagné. Il y avait déjà une tentative en 61 de prise de contrôle à Évora, qui avait échoué, puisqu'il y avait une résistance des commandants de cette base militaire. Et là, partout dans le pays, les jeunes capitaines ou les jeunes commandants réussissent à prendre le contrôle sans échanger de tir. Ceux qui sont plus haut gradés qu'eux acceptent soit de ne rien faire, soit sont arrêtés. Et donc, notamment à Saint-Alain, Salgueiroumaï, qui n'a que 29 ans, c'est un coup d'État fait par des jeunes, qui n'a que 29 ans, harangue ces soldats qui sont réveillés au milieu de la nuit et qui ne savent pas du tout ce qui les attend. Les soldats de base ne sont pas du tout au courant du coup d'État. Et donc, il les harangue, il leur dit il faut en finir avec cette dictature, il faut en finir avec ces guerres. Il réussit à ce que quasiment tous les soldats acceptent de participer à ce coup d'État. On aurait pu penser qu'après 48 ans de dictature, 13 ans de guerre coloniale, les soldats soient plus apaisants. Au contraire, beaucoup acceptent, enthousiastes à l'idée de quitter la base de Saint-Alain et de se rendre à Lisbonne. Et le premier objectif de Maille, d'après le plan concocté par Othello, c'est de prendre la place du commerce, la grande place à Lisbonne que beaucoup des auditeurs connaissent probablement, en face du Taj, là où il y a différents ministères, le ministère de l'Intérieur notamment, le ministère des Finances, plusieurs ministères liés à l'armée. C'est son premier objectif. Et il arrive un peu avant 6h du matin et très très vite, il prend le contrôle de cette place. Et le gouvernement ne reste pas les bras croisés. Le gouvernement fait intervenir différentes troupes fidèles qui sont censées arrêter Maya. Et donc, plusieurs troupes viennent avec des tanks. Et à chaque fois, va se passer la même chose. C'est que les troupes envoyées pour arrêter les rebelles vont soit repartir sans intervenir, soit changer de camp. Et vont dire, OK, nous, on se met de votre côté et on prend la décision avec tout ce que ça implique de risque pour leur carrière militaire. Leur carrière militaire peut s'achever ici. Et donc, ils acceptent de changer de camp. Et il y a même, et là aussi, dans Capitaine d'Avril, c'est assez bien documenté, à un moment, un brigadier qui arrive avec des tanks, avec des hommes. Il y a une sorte de face-à-face, ça semble presque un western, à côté de la mairie de Lisbonne, où ce brigadier exige de ses hommes de tirer sur Sergei Lumay, qui est venu négocier et qui est venu obtenir qu'il n'intervienne pas, qu'il ne tire pas. Et ce brigadier demande à un premier soldat, un simple soldat, de tirer. Ce soldat refuse. Et tout de suite, il est mis aux arrêts par ce brigadier, qui prend une cravache et qui le frappe, etc. Et qui va ordonner à d'autres soldats, qui pendant toute leur formation et toute leur éducation ont été formés à obéir aux ordres, qui refusent de nouveau et qui disent « on ne va pas tirer sur un camarade ». Et donc il y a ce changement où le brigadier se retrouve avec des troupes qui refusent de lui obéir. Ça le rend complètement fou. Et une partie des soldats vont rejoindre Maya. Et Maya va dire, donc c'est dans la matinée, il n'est pas encore midi, Maya va dire, c'est là où on a gagné le 25 avril. Quand des troupes qui étaient en capacité militaire de tuer Maya et de mettre fin tout de suite à la révolution, ou du moins à cette tentative de prise de pouvoir à Lisbonne, échoue. Et il y a un autre élément important, le gouvernement fait venir un navire de guerre sur le Taj, qui fait face à la place du commerce. Le commandant de ce navire obtient des ordres de tirer sur les insurgés, et là, de nouveau, il va refuser. Et donc, vers midi, la place du commerce est prise, les différents ministres ont pensé qu'ils étaient enfermés dans leur ministère, mais en fait, ils vont faire un trou à coups de marteau dans un mur et vont s'échapper. Mais l'objectif ensuite, après la prise de la place du commerce, ça va être récupérer, obtenir la reddition de Marcel Caetan, qui s'est donc réfugié au siège de la gendarmerie nationale. Et c'est là où se dirigent les troupes de Maille vers un peu avant midi.
Et la gendarmerie reste fidèle à Caetano ?
Exactement, la gendarmerie, il s'y rend parce qu'elle est fidèle. Et si vous connaissez Lisbonne, on peut dire a posteriori que c'était le pire choix possible. Pourquoi ? Parce que la gendarmerie est dans une des 7 collines de Lisbonne. Sur le flanc d'une de ces collines, il n'y a que très peu de rues très étroites pour y accéder, mais donc pour en sortir. Et il n'y a aucune possibilité, a priori, de faire venir un hélicoptère. Le régime y a pensé, mais c'est trop difficile. Et donc, là, c'est déjà un des moments où il y a cette bascule très très forte. C'est que là, on est en plein cœur de Lisbonne. Beaucoup de personnes, en fait, n'ont pas entendu les communiqués de la radio. Donc, sont partis, c'est un jeudi matin. Donc les gens sont partis travailler. Et donc il y a déjà une foule qui est déjà présente et qui voit donc ces insurgés essayer de mettre à bas la dictature. Et au lieu, personne ne va se mettre, va essayer d'empêcher ces insurgés de faire leur action. Au contraire, on va les soutenir. On va crier « Vive les soldats, fin de la dictature ». Très rapidement, on y reviendra sûrement. On leur tend différentes choses et notamment des œillets. On leur donne à manger. Et donc, quand Maya obtient l'ordre d'Otello de quitter la place du commerce et de monter vers la place Aducalm, donc c'est un peu plus d'un kilomètre, il passe en plein centre commercial marchand de Lisbonne. Et ces soldats sont acclamés. Et ce qui, évidemment, donne une force supplémentaire à Maya et à ses hommes, qui sentent qu'ils font un coup d'État qui est soutenu par la population, évidemment, ça démoralise complètement ceux qui éventuellement auraient voulu protéger et défendre la dictature, qui se rendent compte que la population civile est contre eux. Et donc, Maya arrive devant ce Lac du Calme, qui est une petite place, très jolie, mais qui est assez petite, et pour obtenir la reddition de Caetano, qui est réfugié. Et un des problèmes, c'est que Caetano, ne veut pas rendre ou donner le pouvoir à un simple capitaine. Dans le monde très hiérarchique du Portugal, il est inconcevable que le dictateur, certes civil, donne sa reddition à Maia, qui a 29 ans, qui n'est qu'un capitaine, c'est-à-dire qui n'est pas grand-chose dans la hiérarchie militaire. Et donc, pendant un moment, Maia va essayer d'obtenir rapidement, parce qu'en fait, on craint toujours qu'il y ait une réaction possible de troupes légitimes, ou que va faire l'Espagne franquiste. Donc, il faut aller vite. Donc, il faut obtenir rapidement la reddition. Donc, Maia va mettre, entre guillemets, la pression en faisant tirer sur le siège. Donc, souvent, on dit « Ah, mais c'était complètement pacifique, ils avaient des œillets. » Non, non, les œillets viennent plus tard. Dans l'après-midi, on tire sur la façade de la gendarmerie. On ne tue personne, on ne blesse personne, mais il s'agit pour Maia et le MFA de montrer que, s'il le faut, on utilisera les armes. Et là, la population civile, à la fois, c'est un soutien inestimable, mais c'est un problème. Parce qu'en fait, la place est petite et pleine de monde. Et donc Maia, notamment, il y a une photo célèbre, prend un porte-voix pour demander aux gens de reculer, parce que grosso modo, on fait une révolution quand même. Donc laissez-nous faire cette révolution. On va tirer sur la façade. Et bon, ce qui va se passer assez rapidement, c'est que Spinola va réussir, par des intermédiaires, à rentrer dans la situation. Et c'est lui qui, en fin d'après-midi, va obtenir la reddition des mains ou de la bouche de Caetano, qui, à 18h, abdique. Et Spinola sort sous les vivas du siège de la gendarmerie et apparaît comme le nouvel homme fort.
Spinola est dans la place.
Coup d'état militaire au Portugal. Ce matin, à l'aube, les régiments ont convergé vers Lisbonne. En fin d'après-midi, seule la garde républicaine, protégeant le président du conseil Marcelo Caetano, résistait au soulèvement. La cause de cette insurrection militaire, l'Afrique, où l'armée fait la guerre depuis 13 ans. Ces soldats, ce sont ceux du général Spinola, commandant en chef et gouverneur militaire de la Guinée-Bissau pendant 5 ans. L'homme clé de la situation actuelle. La publication de son livre, Le Portugal et son avenir, le 27 février dernier à Lisbonne, cristallisait toutes les amertumes d'une armée qui se demandait pourquoi elle continuait à se battre et à mourir. Aujourd'hui, elle a pris le pouvoir en se réclamant de cet officier de cavalerie qui a eu le courage de parler de liberté en métropole et d'autodétermination outre-mer.
Un reportage du 25 avril 1974, le jour de la révolution des œillets. Ce reportage s'intitule « Coup d'État du général Antonio de Spinola ». Spinola n'était pas attendu dans cette histoire-là, mais il arrive à la fin de la journée, à la fin du 25 avril.
Tout à fait, c'est plein d'équivoques. Et là, c'est un reportage du 25 avril, où il y a plusieurs inectitudes. On le sait après, à l'époque, on ne peut pas le savoir. D'une part, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, le MFA se méfie de Spinola. Et le MFA n'a pas du tout envie d'organiser un coup d'État pour que un nouveau militaire plutôt conservateur prenne le pouvoir. Ils veulent réellement une démocratie. Et Spinola n'apparaît pas vraiment comme un démocrate à leurs yeux. Leur chef, ils ont voté pour cela, c'est Costa Gomes. Sauf que Costa Gomes, le 25 avril, il va se cacher et toute la journée, il va être à l'hôpital où son épouse a différents examens et personne ne sait où il est le 25 avril. Quand il s'agit de trouver un général à présenter à Caetano pour obtenir la reddition du pouvoir, Costa Gomes est introuvable. Et à cette époque-là, il n'y a pas de téléphone portable. C'est très, très facile d'être introuvable à cette époque-là. Et de toute façon, Costa Gomes est très prudent. Et ça, on le verra ensuite pendant la Révolution. Et Spinola, lui, au contraire, fait tout pour intervenir par différents intermédiaires. Et c'est lui qui va obtenir la reddition. Mais tout de suite, il y a des équivoques. Les jeunes officiers du MFA se méfient de lui. Et quand, à la suite de la reddition de Caetano, Spinola se rend au poste de commandement de Ponting, où a agi depuis la nuit Othello. Il arrive, et Othello le racontera dans ses mémoires, comme s'il était devenu le nouveau maître. Et il leur dit, rapaces, c'est-à-dire les enfants presque, puisqu'il est beaucoup plus âgé qu'eux, merci beaucoup, c'est fantastique ce que vous avez fait, mais maintenant laissez les grands, c'est-à-dire moi, gouverner. Et donc très très vite, il essaye de tout organiser et de prendre le pouvoir. Sauf que les jeunes officiers du MFA ne se laissent pas faire. Ils disent, notamment, une des questions, c'est il faut aller à la télévision et se présenter. Il faut que cette nouvelle junte de salut national se présente au pays et qu'elle donne les grandes lignes de son programme. Et notamment, pour les officiers du MFA, c'est très important que la population connaisse le programme qui a été rédigé en mars, que Spinola a lu et a un peu amendé. Et ils disent maintenant, il faut donner le programme à la presse. Sauf que Spinola dit, non, pas de programme, pas de programme politique. Mon programme, c'est simple, c'est mon livre, et pas de programme politique. Et là, il passe à la télévision seulement au milieu de la nuit, parce que pendant plusieurs heures, Spinola d'un côté est aidé par Costa Gomes, qui entre-temps est apparu, et d'autres généraux ou chefs de la junte de salut national vont discuter pied à pied un programme politique du MFA que le MFA veut appliquer. Et ils disent, à un moment donné, non mais il n'y a pas de problème. Si vous n'acceptez pas le programme du MFA, nos troupes sont dans la rue et on continue le coup d'État. Donc, pour nous, ils utilisent l'argument de la force. Donc, ils vont négocier pendant plusieurs heures et il va y avoir des équivoques, mais qui vont être très, très lourdes de conséquences dans les semaines qui suivent. Notamment, et là, l'extrait n'est pas exact, mais ils ne pouvaient pas le savoir à l'époque, Spinola, il ne veut pas une indépendance des colonies. Il veut une fédération. Il veut une communauté lusiade. Il veut une sorte de néocolonialisme. Tandis que les capitaines du MFA veulent, eux, l'indépendance. Et donc, Spinola obtient qu'on retire toute idée d'indépendance. Il obtient également un autre point extrêmement important, qui est le MFA voulait la fin de la police politique. Et d'ailleurs, la police politique, vers 20h, est assiégée, encerclée par une population civile, et la police politique tire sur la foule, tue 4 personnes et fait 40 blessés.
C'est là où il y a les morts de cette révolution des œillères.
Exactement. Et donc, dans le programme du MFA, c'était fin des institutions de la dictature, dont la police politique. Spinola et Costa Gomes, je dis, ok, on peut... Je pense que même Spinola voulait la garder dans la métropole, mais ils disent, dans la métropole, on la supprime, mais dans les colonies, on la conserve. Parce qu'il y a encore une guerre à continuer. La guerre ne s'arrête pas le 25 avril. Pour Spinola, elle ne s'arrête pas là. Et donc, il y a ce conflit extrêmement fort, et notamment quand, dans la nuit du 26 avril, Spinola apparaît à la télévision, quand il sort un papier de sa poche, qui n'a même pas été négocié avec la MFA, une des premières choses qu'il dit, c'est que ce coup d'État a été fait pour sauvegarder le Portugal pluricontinental et pluriracial. Il utilise mot à mot le discours du régime salazariste. Et pour beaucoup de Portugais, qui devaient s'attendre à la fin des guerres coloniales ou à la fin des colonies, c'est un peu une surprise. Parce qu'il ne dit pas fin des guerres coloniales, peut-être, si la négociation fonctionne, mais il ne dit pas fin de l'Empire. Et donc, dès le 25 avril, il y a déjà une tension extrêmement forte entre Spinola et le MFA, ce que, évidemment, l'extrait, les journalistes ne pouvaient pas savoir.
Oui, parce que c'est le 25 avril, c'est sur le moment même, et on comprend pourquoi Victor Pereira, dans votre ouvrage « C'est le peuple qui commande la révolution des œillets », vous avez donné des bornes chronologiques 1974. Ben oui, c'est logique, mais 1976, parce que cette révolution des œillets, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le 25 avril, bien sûr, mais il y a toutes ces conséquences avec, pour vous remercier de tout ce que vous nous apportez, Victor Pereira, quelques fleurs.
Je suis arrivée ici. J'étais complètement surprise de voir des soldats. Je leur ai demandé ce qui se passait. Ils m'ont dit c'est la révolution. Et alors, j'étais tellement contente, mais je n'avais rien à leur donner. Pas de cigarettes, rien. Seulement des œillets. J'ai pris un œillet, je l'ai donné à un soldat, et il l'a mis dans le canon de son fusil. Il était très content. Alors, je les ai suivis, et je leur ai donné tous mes œillets.
Cécilia Gabizon. Gabizon qui s'exprimait à propos de son moment de gloire où elle distribue des œillets, parce que c'est ça aussi, cette révolution des œillets. C'est incroyable comment cette fleur a marqué ce moment particulier, Victor Pereira. Alors, ces œillets lors de la révolution, omniprésents ?
Ils viennent postérieurement. C'est-à-dire que ce témoignage, il y a plusieurs histoires, et c'est celui qui est resté pour la postérité. Un restaurateur à Lisbonne fête sa première année d'ouverture de son restaurant. Il veut offrir des œillets à ses clients. Le 25 avril, coup d'État, les militaires font fermer tous les restaurants. Il se retrouve donc avec plein d'œillets. Il les donne à une de ses serveuses qui rentre chez elle, pas très loin d'où se déroule le coup d'État. Donc, comme elle le dit, elle croise des soldats. Elle demande, mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit, on organise un coup d'État. Un de ses soldats lui demande une cigarette. Heureusement qu'elle n'avait pas de cigarette, hein, parce que sinon ça aurait été la révolution des cigarettes. Elle lui dit, non, mais j'ai pas de cigarette, mais j'ai des œillets. Il lui donne un œillet, et après, je pense que différents marchands et marchandes de fleurs ont donné des œillets, et très très vite, ça a donné ce nom de révolution des œillets. Évidemment, quand les soldats, au petit matin, sont sortis, ils n'avaient pas d'œillets à la boutonnière, c'était pas du tout un signe de ralliement. C'est ensuite, et ça montre bien cette adhésion de la population civile aux soldats, spontanément, et donc c'est ce cadeau simple qui va ensuite donner ce nom à cette révolution, et qui souvent a occulté d'une part la violence potentielle qui aurait pu exister et qui a existé, hein. Donc ces tirs sur la façade, ces 4 morts par la police politique, et qui parfois occulte un peu le processus révolutionnaire. Le 25 avril, c'est à la fois la fin d'une dictature, le début de la fin d'un empire qui se disait vieux de 5 siècles, mais c'est surtout aussi le début d'un processus révolutionnaire, mais révolutionnaire dans le sens de révolution contre le capitalisme, contre la propriété privée, avec des occupations, etc. Et c'est aussi le début d'une transition politique vers la démocratie qui ne s'achève, cette transition, qu'en 76.
Voilà, 76 avec la constitution au Portugal. Et c'est vrai qu'au lendemain de cette révolution, le lendemain du 25 avril, les opposants reviennent. Mario Soares, qui est la grande figure de cette opposition de gauche, reviennent parce que faut toujours le rappeler, hein, au lendemain d'une révolution, il y a toujours l'incertitude, l'avenir, qu'est-ce que ça va donner. Et c'est pour ça que ces années 74, 75, 76 sont passionnantes pour l'histoire du Portugal.
Tout à fait. Et l'incertitude, encore une fois, plusieurs exilés, quand ils apprennent que c'est le 25 avril, notamment en écoutant France Inter, dès 7h du matin, Philippe Gildas évoque qu'il se passe quelque chose, un soulèvement militaire. Beaucoup sont étonnés, beaucoup pensent que c'est un coup de l'extrême droite. Et même dans les jours suivants, est-ce que c'est pas réversible? Est-ce que les forces pro-gouvernementales ne peuvent pas ressortir d'on ne sait où? Donc, par exemple, Soares vient relativement tôt, il arrive à Lisbonne le 28 avril, il prend le train, mais Álvaro Cunhal, secrétaire général du Parti communiste, qui vit en exil depuis 13 ans, qui a été emprisonné plus de 10 ans, ne revient que le 30 avril, c'est relativement tôt, mais le 24 avril au soir, personne ne pouvait imaginer que 6 jours plus tard, Álvaro Cunhal, l'ennemi numéro 1 quasiment du régime, serait à Lisbonne, ou que dans la nuit du 26 au 27 avril, tous les prisonniers politiques, notamment à Peniche et à Caxias, seraient libérés sous les vivas de la foule qui crie déjà à cette époque « Le peuple uni ne sera jamais vaincu ».
Le peuple uni ne sera jamais vaincu, avec Victor Pereira dans cette révolution des œillets. Quelque chose qui nous touche tous, et c'est sans doute aussi le succès mémoriel de cette révolution, et vous l'avez expliqué extrêmement clairement, ce sont des soldats baignés de dictature, élevés dans la dictature, qui, au moment de tirer, baissent les armes. Ça aussi, c'est très fort, c'est ce qui fait ce succès de cette révolution des œillets. J'ai envie de dire presque un modèle, ça a été présenté comme ça en tout cas.
Tout à fait. Ce qui a, il y a deux singularités. C'est d'une part, des jeunes officiers qui décident de mettre fin à une dictature, on est plutôt habitué à l'inverse. Et des jeunes officiers qui, ensuite, on va se rendre compte, se sont politisés pendant ces guerres coloniales. Et certains, dont Vache Gonsalves ou Otello Saval Calvalho, vont devenir des figures majeures politiquement. Et pendant 2 ans, 1 an et demi, au Portugal, une partie du MFA va essayer de dessiner, d'esquisser une voie socialiste portugaise. C'est-à-dire que, très très rapidement, la question ne va pas être seulement la démocratie, mais ça va être le socialisme. Et dans la Constitution 76, l'article 2 dit que le Portugal est en transition vers le socialisme. Bon, entre-temps, ça a été retiré, mais en 76, c'est ce qu'il y a. Et deuxièmement, c'est le 25 avril, le fait que personne ne résiste, ou quasiment personne, si ce n'est Lapide, personne ne résiste, et qu'il y a une crise de l'obéissance. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la période révolutionnaire ensuite, c'est une crise de l'obéissance, et la population portugaise qui va lutter pour avoir des droits.
Avec cette histoire que l'on retrouve dans votre ouvrage, Victor Pereira, comme c'est le peuple qui commande la révolution des œillets. Merci vivement à vous d'être venu dans le cours de l'histoire. C'était nécessaire de s'arrêter sur ce 25 avril.
Je le pense aussi.
Merci beaucoup. Attends, tenez, œillets, il est l'heure de Gérard Noriel, le pourquoi du comment.
Pourquoi les croisés s'attaquèrent-ils aux Sarrasins du Nord ? Si nul n'ignore l'histoire des croisades vers les territoires que les chrétiens appelaient la Terre Sainte, les expéditions visant à convertir les peuples païens du nord de l'Europe sont moins connues. Ces croisades baltes furent pourtant lancées par le pape Célestin III dès la fin du XIIe siècle et se prolongèrent jusqu'au début du XIVe siècle. Parmi les croisés qui jouèrent le rôle essentiel dans cette entreprise, le plus important fut l'ordre teutonique. Cet ordre militaire chrétien, créé pour participer aux croisades en Terre Sainte, s'impliqua surtout dans le nord de l'Europe et tout particulièrement en Prusse. Au début du XIVe siècle, les offensives militaires de l'ordre teutonique se concentrèrent sur le Grand-Duché de Lituanie, car c'était la dernière région qui résistait à la christianisation. Composé pour l'essentiel de chevaliers allemands, l'ordre teutonique bénéficia du soutien des chevaliers anglais et français lors des campagnes saisonnières lancées contre les païens lituaniens. Cette croisade tardive, associant des chevaliers des divers contrées de l'Europe chrétienne, peut être vue comme une réaction collective face à la crise d'identité que traversait alors l'aristocratie militaire. Le fait de combattre ceux qui étaient désignés comme les Sarrasins du Nord fut conçu comme une alternative pour des chevaliers qui voulaient se montrer à la hauteur de leurs prédécesseurs, mais qui ne pouvaient plus se rendre en Orient depuis la chute d'Acre en 1291. La prise de cette ville par les Mamelouks avait mis fin, en effet, au royaume de Jérusalem. La Lituanie, dernier État païen d'Europe, se convertit officiellement au christianisme en 1387. Cette intégration de la région balte dans l'Europe chrétienne transforma son image. Désormais, elle ne fut plus perçue comme une zone frontière, mais comme un rempart de la chrétienté contre les Tatars et les Russes. Dans sa thèse, fondée sur l'étude comparative des sources occidentales et est-européennes, Loïc Chollet a montré récemment le rôle essentiel que ces croisades baltes avaient joué dans l'évolution des représentations de l'Europe au sein des élites cultivées. Alors que la notion même de croisade sous-entend un antagonisme entre colonisateurs et colonisés, l'exemple balte montre qu'une situation de conflit entre chrétiens et païens peut se transformer en vecteur de connaissance de l'autre. Loin de se comporter en victime passive, les princes baltes alimentèrent une correspondance suivie avec la papauté, en faisant miroiter pendant longtemps la perspective de leur conversion pour défendre leurs intérêts. Inversement, les expéditions baltes permirent aux chevaliers chrétiens d'ajouter un chapitre dans l'imaginaire littéraire de ces croisades. Il s'agissait pour eux non seulement de combattre les infidèles, mais aussi de découvrir des régions étrangères. À l'heure où l'on s'efforce de promouvoir une vision de l'histoire plus européenne que nationale, ces recherches sur les croisades baltes prennent tout leur sens, car elles nous permettent de mieux comprendre comment ont évolué les représentations de l'Europe au sein des peuples qui en font partie.
Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thaïsia Froidu, préparée par Lilou Maupetit, émission préparée par Jeanne Delecroix, Toscane Dudet, Jeanne Copet, Mathieu Copal et Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Se préparer au grand oral du bac, prendre la parole en public, défendre ses arguments lors d'un débat, déclarer sa flamme. Bien parler et savoir se faire entendre, ça s'apprend.
J'essaye de transmettre par des livres ou par des enseignements ce que j'ai appris en matière de prise de parole en public.
Ma parole, entraînez-vous à l'art de bien parler avec Bertrand Perrier, réalisé par François Test sur franceculture.fr et l'application Radio France.